Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news. Hello.
Il est 9h41 sur France Inter. Soyez les bienvenus, c'est l'instant M qui redémarre.
Vous êtes en direct, allez-y.
Âge moyen des téléspectateurs de France 2, France 3 et France 5 de 60 à 62 ans. L'année dernière, la vitesse à laquelle a vieilli le public de la télévision a été multipliée par 2. Et dernier chiffre pour vous achever, les Français qui regardent la télé sont en moyenne 11 ans plus âgés que les Français tout court. Bref, avant que la télé ne meure avec ses téléspectateurs, ce qui va arriver inexorablement, France Télévisions a créé Slash, une plateforme de vidéos gratuite sur le web et les réseaux sociaux. Kyrielle de doc et de fiction, toujours court, toujours sériel, ça ressemble à du YouTube, mais en super pro, c'est bien fichu, c'est surtout très très engagé et militant, par conviction. On se pose la question parce que ça ne ressemble pas du tout à du France Télévisions.
L'instant M, Sonia De Villers sur France Inter.
Et ça tombe bien parce que France Télévisions est là. Bonjour Tiphaine de Raguenel.
Bonjour Sonia.
Vous êtes directrice jeunesse et animation. Donc vous avez l'un de ces nouveaux postes créés dans la réorganisation de France Télévisions qui est un poste transversal. Oui. Donc la jeunesse et l'animation sur l'ensemble des chaînes et des... Et justement, on ne va plus parler simplement de chaînes. Des chaînes et des plateformes vidéo.
Des antennes.
Absolument. Et des antennes, voilà. À vos côtés, Antonio Grigolini, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes directeur de France TV Slash, cette plateforme dont on va parler ce matin. Et comme on est mardi, il y a Xavier Delaporte à mes côtés. Bonjour Xavier.
Bonjour Sonia, bonjour à toutes et à
tous. Alors la fenêtre de la porte, aujourd'hui, elle s'ouvre ?
Et oui, on va parler de régulation, parce que confronté au travers des réseaux sociaux, oui, il faut un peu, donc on les connaît ces travers, circulation des fausses informations, ingérence de pays étrangers, contenu violent, propagande extrémiste et terroriste, etc. Beaucoup d'États se sont lancés dans des politiques de régulation d'Internet, donc des politiques qui changent selon les traditions nationales, mais qui ont un point commun, réguler les contenus. Alors une loi contre les propos haineux a été votée en Allemagne en 2017, la Grande-Bretagne, elle, veut imposer un devoir d'attention aux entreprises qui possèdent ces réseaux. Quant à la France, on sait, il y a eu la loi sur les fausses informations, et le gouvernement se veut leader d'une régulation à l'échelle mondiale qui sera discutée au prochain G7. Cette question de la régulation est éminemment complexe, et elle oppose toujours les mêmes camps, ceux qui ne voient pas le problème et ceux qui dénoncent un peu par principe une atteinte à la liberté d'expression. Or, je viens de lire quelque chose qui m'a fait réfléchir. Heidi Tuorek est historienne, elle officie à l'université de Colombie-Britannique au Canada, et elle a publié récemment dans la très bonne revue américaine The Atlantic un article tout à fait passionnant, un article qui nous replonge dans l'Allemagne des années 30. Le point de départ, c'est une citation de Joseph Goebbels, rien que ça, le ministre de la propagande d'Hitler. Je vous cite Goebbels. « Nous n'aurions pas pu prendre et exercer le pouvoir comme nous l'avons fait sans l'avion et la radio », disait donc Goebbels. Selon Heidi Tuorek, cette phrase est souvent mal interprétée. Si l'on croit que les deux, c'est-à-dire l'avion et la radio, ont également servi avant et après la prise de pouvoir. En réalité, l'avion a servi pour faire campagne, Hitler prenant plusieurs fois l'avion par jour pour se rendre partout en Allemagne, et la radio a servi à asseoir ce pouvoir une fois acquis. Pourquoi ? Parce que la radio était déjà contrôlée par l'État avant même que les nazis prennent le pouvoir. Quand la radio se développe en Allemagne au début des années 1920, la République de Weimar y voit un outil d'unification du peuple allemand qui a été très éprouvé par la Première Guerre mondiale, et donc il la régule. Très vite, on supprime l'information et la politique qui pourrait fragiliser l'opinion, et on consacre la radio à l'éducation et au divertissement. Et à mesure que la République de Weimar devient de plus en plus instable, elle augmente même son contrôle sur la radio en la dépolitisant toujours plus. Le but était noble, sauver la démocratie. On peut pas dire que c'est hyper bien marché. Ces lois ont permis aux nazis de dénoncer un système des médias tenu par le gouvernement. Mais surtout, une fois qu'ils ont obtenu le pouvoir, ils ont reçu en cadeau le contrôle absolu de la radio et l'ont utilisé à point. Alors évidemment, c'est un exemple extrême. Mais Heidi Tuorek raconte que la loi promulguée en 2017 en Allemagne, non seulement porte en elle des éléments très problématiques quant à la liberté d'expression, mais aussi qu'en exigeant par exemple le retrait de contenu d'extrême droite, elle a largement participé à leur publicisation. Comme ses ancêtres, l'extrême droite allemande a pu en appeler à la censure, ce qui fait toujours beaucoup d'effet. Alors, l'idée de ce rappel historique, c'est pas de provoquer immédiatement un point Goldwyn en disant la régulation des contenus d'Internet, c'est un truc de nazi. Dans la situation qui est la nôtre, qu'il faille agir, c'est absolument indéniable, et Heidi Tuorek elle-même le concède. Néanmoins, on peut tirer plusieurs leçons de ce rappel. Un, c'est toujours utile d'observer les conséquences à long terme des politiques qui sont mises en place. L'histoire nous le permet. Deux, on peut avoir les meilleures intentions du monde et provoquer des catastrophes. Et trois, la démocratie, c'est conflictuel. C'est même le seul régime politique qui autorise et nécessite le conflit. Évidemment, ce conflit s'encadre, mais le faire disparaître des médias et des conversations, c'est paradoxalement affaiblir la démocratie.
Merci Xavier Delaporte. Si vous voulez réécouter une citation de Goebbels à 9h46 sur France Inter, vous la réécoutez sur franceinter.fr.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Eh bien moi je vais vous parler de France TV Slash ce matin, la plateforme web créée par France Télévisions et destinée aux jeunes. Clit, Révolution, des épisodes de 12 minutes. Elvire Duvel-Charles et Sarah Constantin testent chacune dans une chambre des sextoys à la recherche du plaisir.
Bah prends ton temps parce que moi je l'ai fait et c'était super rapide et c'était nul.
Mais t'as réussi ?
Bah j'ai joui, mais non j'ai pas squirté, j'ai joui. Mais c'était nul.
Ah, mais moi j'essaye de squirter, j'essaye pas de jouer, putain.
Bah oui, bah. Chacun ses trucs.
Bon, laisse-moi.
Tu veux que je te dise des trucs sales ?
Non, s'il te plaît, surtout pas toi.
Voilà, alors ça c'est Clit Révolution. Slash s'est présenté comme une plateforme qui s'adresse, Stéphane de Raguenel, aux 18-34 ans. Parce qu'on est le service public et qu'en termes de responsabilité, on peut décemment pas dire, évidemment, à 14-15 ans, les gamins, ils regardent tous ce genre de contenu.
Non, parce que vraiment l'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'abord de lancer un média qui soit un média de service public, qui soit un média vidéo et un média généraliste, et qui soit vraiment au contact de cette génération entre le moment...
Cette génération, parce qu'entre les 18 et les 34 ans, il y a un monde, vous le savez.
Oui,
bien.
Mais c'est entre le moment où on sort de l'école et où on rentre dans une autre vie et le moment où on s'installe en France. Ça se passe autour de 30 ans. On s'installe en couple, on a un premier enfant. Donc c'est cette grande étape de vie où effectivement il se passe 2 millions de transformations, mais qui est quand même une étape de vie commune où on vit seul et où on est autonome par rapport aux parents avant de rejoindre une sphère familiale où on s'installe dans un nouveau collectif.
Alors voilà pour la cible Antonio Grigolini. Parlons de l'écriture. Toujours court, toujours sériel.
Alors, toujours court, ça dépend. Je peux pas de
quand même.
C'est plutôt court, oui, par rapport à certains formats télé. En fait, plus
3, 4, 6, 12 minutes en général.
Oui, ça peut aller un peu au-delà. Ce qu'on cherche, c'est pas tellement la durée courte, c'est une histoire de rythme, de valeur, de densité de l'écriture. Parce qu'il faut tenir en haleine, court plus sur Internet qu'à la télé.
C'est ça, c'est-à-dire que c'est court et à l'intérieur du court, c'est très monté, très clippé.
Exactement.
Très travaillé, hein.
Ouais. Exactement. On essaye tout simplement de s'inspirer des codes qui circulent, qui sont adoptés par les créateurs sur Internet. Enfin, des codes auxquels nos publics sont habitués et de les prendre en compte, de les utiliser pour pouvoir leur parler de la meilleure des manières, en fait. Mais on n'a rien contre le fait de produire des contenus longs, par exemple.
Ouais.
Et on voit même que c'est une tendance, hein, qui est de plus en plus sur Internet.
Donc, sur Internet, les contenus rallongent?
Bah oui. Souvent, on nous dit, puisque c'est court, c'est pour Internet, ou alors, puisque c'est sur Internet, c'est forcément court. En réalité, c'est, encore une fois, c'est davantage une histoire de rythme. Et on pense que la web création, comme on l'appelait auparavant, va devenir en fait juste un volet de la création tout court, avec des formats plus longs, plus ambitieux. C'est
avec
ça,
l'idée
aussi,
quand même, que vous réadaptez l'écriture et l'emballage, je dirais, de vos contenus en fonction du support sur lequel vous êtes. C'est-à-dire que vous ne diffusez pas exactement la même chose quand vous êtes sur YouTube et quand vous êtes sur Facebook.
Exactement, c'est une histoire de contexte, en fait. Dans le contexte, on a une personne, enfin un spectateur, et on a un écran. Et l'idée, c'est de trouver la meilleure manière pour parler à cette personne dans le contexte dans lequel la personne est.
Donc, en fait, spécifique. Spécificité Facebook, par exemple.
Facebook ou Twitter, en fait, il y a une spécificité des vidéos autoplay, comme on dit en jargon, qui s'écoute à 95% sans le son. Et d'ailleurs, pour ces vidéos-là, ce qui se passe depuis un an, c'est que leur durée moyenne a tendance à s'allonger, en fait.
Ouais.
Là aussi, on devient un peu plus immersif. Et ensuite, lorsqu'on est sur d'autres plateformes, on essaie d'épouser les codes, les habitudes, les usages des spectateurs, des spectatrices.
C'est alors, ça, Bon sang, c'est une série en 10 épisodes de 6 minutes.
Avec mes anciens collègues, j'ai eu la mauvaise expérience et la mauvaise idée de leur dire que j'avais mal pendant mes règles. Et à une période, on faisait même des paris si j'allais venir tel jour ou pas. Donc, je l'ai très mal vécu.
Alors là aussi, vous aspirez les codes du web, de YouTube et des réseaux sociaux, c'est-à-dire que sur France TV slash donc, on partage sa vie, on fédère autour du jeu, J-E.
Tiphaine de Raguenel.
Oui, parce que c'était important de parler des problématiques qui infusent cette génération et les questions de l'identité, de qui je suis, du genre, de ma relation aux autres, amoureuse, amicale.
Ça se raconte pas
amicale.
Forcément à la première personne. Ça non, s'est ça raconté pendant raconter... très longtemps à la télévision, pas du tout à la première personne,
ça
justement.
Ça peut se raconter autrement, mais nous, le point de vue qu'on voulait avoir, c'est vraiment de parler du point de vue de cette génération, avec en immersion le plus proche possible de leur réalité, avec la volonté d'être authentique et de susciter aussi de la réaction, puisque un des objectifs de Slash, c'est que les gens regardent les programmes, mais aussi qu'il y ait de la conversation qui se noue autour des programmes. C'est pour ça qu'on est présent sur France.tv, mais aussi sur les réseaux sociaux.
C'est ça.
C'est sur les réseaux sociaux qu'on crée de l'engagement.
Et c'est ça,
et
c'est toute l'idée qui est en fait très différente de la télévision, c'est d'articuler une offre autour vraiment de la notion de lien avec le spectateur. C'est je te parle de moi, donc je te parle de toi, et c'est extrêmement intéressant parce que c'est quelque chose qui traverse également vos fictions. On va parler de Scam, qui est votre très très gros succès. En deux mots, Tiphaine de Raguenel, vous voulez nous planter Scam. J'en étais à 28 millions de vues, mais vous en êtes où ?
On en est à 55 millions de vues sur les 4 saisons.
Ouais.
Plus de 10 millions de vues pour la saison 4.
Ouais.
Voilà, Scam, c'est vraiment en prise avec la réalité d'un groupe de jeunes gens de 16 ans.
Voilà, c'est une série, c'est voilà, une petite c'est une fiction, série. C'est une adaptation.
C'est une grosse fiction.
Ouais, ouais.
Non, parce que c'est une adaptation court, c'est ça, d'un format norvégien.
C'est ça.
Donc dont on a repris le titre, qu'on a travaillé avec Benjé, avec un réalisateur qui a pris le sujet en main parfaitement, qui est David Doureg. On voit qu'on est vraiment en écho tous les questionnements éventuellement les discriminations que subissent
Et quand je
les
vous parlais du jeu J.E., c'est que chaque saison est donc centrée sur un personnage. Emma, Manon, Lucas pour la saison 3, on a parlé d'homosexualité. Iman pour la saison 4, où on parle du hijab. On l'écoute.
En vrai, je crois que je me suis sentie trahie quand Ingrid est rentrée dans le crew.
Pourquoi ?
Parce que c'est une connasse raciste. Elle m'a bien fait comprendre que j'aimais. Hein. Elle a tout fait pour m'éloigner des meufs.
Tu penses pas qu'elle voulait pas traîner avec toi juste parce que tu t'étais comportée comme une connasse avec elle ?
Tu comprends pas, je crois, en fait. C'est quoi ? Essaie de porter le voile rien qu'une fois dans une journée, hein, et tu vas comprendre de quoi je parle.
Alors, je suis déjà gay, donc je pense pas non plus vouloir tout cumuler d'un coup.
C'est pas pareil. Toi, ton orientation sexuelle, elle se voit pas sur ta tête. Quand t'es noire et tu portes le voile, les gens, ça les perturbe. Pour eux, si je le porte, c'est parce que je me suis fait engrainer, tu vois.
Antonio Gregolini, chaque personnage a son compte Instagram. Où là aussi, finalement, personnage de fiction ou témoin de la vie réelle, vous adoptez le même type de fonctionnement pour construire une relation.
On parlait du jeu J.E. Oui. tout à l'heure. En fait, c'est assez vite un nous. Hein. Et il y a cette idée de lien qui est fondamentale. Pour les comptes Instagram, ce qu'on souhaitait, c'était de... Enfin, déjà, ça fait partie du format original, mais l'inspiration vient de, d'une envie de réalisme, d'authenticité. Et aujourd'hui, le nous et le jeu se construisent aussi via les plateformes, en fait, via ce qui se passe sur son smartphone. Ouais. Le fait de faire vivre les personnages à l'écran, mais aussi en tant que aussi sur Instagram avec un compte comme l'ont des millions de jeunes Français nés de là, en fait.
Et
en plus, ça nous permet de raconter d'autres facettes du jeu et d'autres facettes du nous, en fait, de nuancer de rajouter de la nuance dans les histoires, dans la construction des personnages. Et
avec cette spécificité de Scam que parfois les épisodes sont diffusés en temps réel, c'est-à-dire que d'un seul coup débarque sur la plateforme un petit épisode de quelques minutes, ça se passe à 8h30 du matin ou à 6h du soir, et c'est diffusé en temps réel à 8h du matin ou à 6h30 du soir dans la vie de son spectateur.
Exactement. L'idée, au fond, elle est assez simple. Il s'agit de s'inscrire dans la vie de nos spectatrices ou nos spectateurs.
Ouais.
D'où cette idée de narration en temps réel, entre guillemets. Donc effectivement, quand une séquence a lieu le mardi à 10h30, on la publie le mardi à 10h30. Et du coup, ça plonge les spectatrices et les spectateurs dans la même temporalité que les personnages. Ils attendent aussi longtemps qu'ils attendent. Et parfois, ils se donnent rendez-vous. On sait qu'il va y avoir une séquence le lendemain à 13h, puisque les persos se sont donné rendez-vous. Et après, il y a 10 minutes de retard, la séquence sort à 13h10, et en fait, c'est 10 minutes de retard, les persos les vivent, mais les spectateurs, les spectatrices aussi, enfin, le directeur de collection Niesrao en parle très très bien. Donc là aussi, l'effort de SCAM, qui correspond à l'effort qu'on fait avec Slash de manière générale, c'est de s'inscrire dans le cadre de vie de nos spectateurs. En
fait. Alors la vie de qui? Ça c'est vraiment la question ce matin. Son coming out, 6 épisodes de 6 minutes dans l'onglet Vos histoires. Là on va entendre Marcel qui a découvert l'homosexualité de son fils.
On soigne beaucoup de maladies, mais celle-là... j'ai appris que non, c'était irréversible. Bon, ben alors faut faire avec. J'en ai parlé avec Alain. Je lui ai dit que c'était contre nature, mais bon, pour moi, la situation, elle était celle-là.
Voilà, un monsieur qui d'ailleurs n'a jamais renié ni répudié son fils. Il y a d'ailleurs une nouvelle série qui s'appelle Coming Out qui arrive sur Slash. Mais qu'est-ce que c'est que ce repère de militants progressistes, féministes, LGBT, intersectionnels, tolérants, je sais pas quoi d'ailleurs, je sais même plus comment il faut les appeler, qui combattent les inégalités dans tous les sens. D'où vous sortez les amis? Non, d'où vous le sortez les amis? C'est-à-dire, est-ce que c'était voulu? C'est une ligne éditoriale qui est quand même très marquée, très engagée, très délibérée, très volontaire. Comment vous l'avez mise au point et pourquoi on en est arrivé là?
Tout simplement, on vit dans la société, en tant que média et en tant que personne, non spectateur aussi, et ça vient de là, tout simplement. L'importance des discriminations, nous n'avons pas découverte, nous, en fait, elle fait partie de la vie des jeunes Français auxquels on s'adresse. Donc, on est parti de là, de manière assez, assez simple. Après, oui...
Mais après, dans l'idée qu'on va raconter la vie de de vos spectateurs, on pourrait imaginer, puisque Tiffaine de Ragnel a dit, c'est le moment où on sort du lycée, en gros, puis jusqu'au moment où on s'installe, que Slash raconte la difficulté de se loger, la difficulté d'avoir un CDI, la difficulté des premiers salaires au lance-pied, la difficulté de la mobilité, des transports, la difficulté... Vous voyez ce que je veux dire? Non. En réalité, oui, c'est inscrit dans la vie, mais...
Si, c'est quand même deux choses importantes, parce que là, on a l'impression qu'on a que cette dimension qui est, oui, parfois un peu engagée dans la lutte contre les discriminations, mais il y a plein d'autres,
c'est super vertueux, d'ailleurs.
D'autres choses qu'on propose. Tout d'abord, on a d'autres choses qui sont, d'autres programmes qui sont plus légers, en fait. Parce qu'on a beaucoup parlé de difficultés, il n'y a pas que les difficultés. C'est important de se marrer aussi, d'ailleurs. À la rentrée, on va pas mal travailler sur l'humour. Ensuite, on parle aussi de vie quotidienne, de problèmes plus, enfin, ils ne sont pas plus concrets, ils sont concrets d'une autre manière, tout est concret. On travaille avec On n'est plus des pigeons, par exemple, sur les thématiques de conso, en fait.
Qui était une ancienne émission de France 4,
tout à fait.
Qui est devenue un objet web.
Et là, on va interroger ça. Il y a des enquêtes qu'on a fait, c'est sur les mutuelles étudiantes, par exemple. Donc, il y a aussi tout ça. Ensuite, on voit bien que la proposition que souvent ce sont des séries comme Scam, ou un doc comme Océan, qui trouve un peu plus d'écho.
Océan, qui est sur la transformation d'Océane Rosemary, donc c'est qui est l'histoire d'un transgenre.
C'est exactement, c'est sa transition F2M, comme on dit. C'est une histoire qui raconte une figure emblématique.
On vous en a parlé dans l'instant, mais justement, c'est la question que je voulais poser à Tiffaine de Ragnel, c'est-à-dire qu'en effet, vous rajeunissez votre public de manière évidente avec France TV Slash. Est-ce que, en même temps, vous vieillissez pas France Télévisions comme jamais, parce que le décalage avec ce qui se voit sur vos antennes, qui bouge, mais alors très très lentement en matière de visibilité, de diversité, ça bouge, mais enfin, ça reste quand même très conservateur, quoi.
Alors en tout cas, France Télévisions Slash, c'est un élément du mouvement de France Télévisions.
C'est ça.
Et puis je pense qu'il y a un fil commun qui est la volonté d'être utile. C'est ce qui a animé au départ France TV Slash, c'est qu'est-ce qui peut changer un peu la vie des gens. Je pense qu'avec SCAM, on a eu des milliers de témoignages, notamment la saison 3 qui était autour de la thématique du coming out, de gens qui disent que ça a changé leur vie, que ça leur a permis d'en parler avec leurs amis, avec leurs parents. Voilà, donc je pense que c'est ça qui nous anime.
Merci beaucoup. France TV Slash, donc, à suivre sur le web et les réseaux sociaux.